Chapitre 9. Petit lever de la reine, le couteau du parricide. Ce que nous venons de raconter se passait au commencement de l'après-midi. Nous laissons un instant de côté le drame noir pour une scène d'audacieuse comédie et nous rétrogradons jusqu'au matin du même jour. Nous sommes chez Mathurine Goré, la mendiante millionnaire. C'était une salle de ferme assez grande et dont les murailles rugueuses avaient la blancheur blafarde de la chaux fraîchement étendue. On y marchait sur la terre battue, mais devant le lit en forme d'armoire qui s'appuyait d'un côté à la haute cheminée, de l'autre au bahut de bois vermoulu où étaient les assiettes de grosses faïences à fleurs, un beau tapis couvrait le sol. Un secrétaire en acajou se dressait au-delà du bahut et jurait singulièrement avec le reste du mobilier. Une huche de chêne brute servait de montoir au lit. La table, noire d'humidité, n'aurait point déparé le cabaret le plus sordide. Mais, par un contraste inattendu, elle s'entourait d'une demi-douzaine de fauteuils capitonnés et habillés de damas jaune clair. Le lit aussi avait des rideaux de damas, tandis qu'une serpillière en lambeaux pendait au-devant de l'unique fenêtre et laissait passer, par sa plus large déchirure, un rayon de soleil matinier. Un seul, car la ferme était dans un fond et entièrement entourée de verdure. Quel était le séjour où respirait Mathurine Goré, fiancée du fils de Saint-Louis et future reine de France? Elle respirait fortement, ou plutôt elle ronflait, avec un tel tapage que le bruit de son nez dominait la conversation très animée des gens qui l'entouraient. Le rayon de soleil, oblique et glissant entre les rideaux, permettait de contempler son auguste personne. Elle dormait, vêtue d'une camisole d'indienne rouge et coiffée d'un bonnet de coton que maintenait un ruban de laine bleue. Son profil homasse se découpait dans le noir de l'alcôve avec une vigueur étrange. Catherine le Grand ne pouvait être plus virile que cela. Son nez aquilin et busqué retombait en été noir sur une bouche brutale où croissait une moustache hérissée. Elle avait barbe au menton dans toute la force du terme, et quoi qu'on y pût faire, sa joue, labourée de rides, était tannée comme le cuir d'un vieux soldat. Le reste de son visage consistait en un front étroit et bas, demi-caché par les mèches de cheveux gris qui s'échappaient du modèle de coton, et en une paire de petits yeux rougeâtres, cachés maintenant par des paupières boursouflées. Le nez ressortait en violet vif sur tout cela. C'était une repoussante créature, mais qui devait avoir sa force. L'épaisse brutalité de cette physionomie au repos n'excluait point l'intelligence. Les lits des paysans ressemblent un peu aux lits des rois. Ils ont une ruelle. Dans la ruelle de la Gorée, il y avait un bénitier, une bouteille d'eau-de-vie, du lard et du pain. Elle s'en donnait, depuis que, selon son expression, elle l'était pour être reine. Le contraste offert par les objets matériels dans le taudis de la maintenant normande se reproduisait en s'exagérant si l'on passait des choses aux personnes. Tout près du lit, deux femmes admirablement belles et dont les toilettes simples, mais marquées au cachet d'un goût irréprochable, accusaient une position mondaine d'un rang supérieur, se tenaient debout et semblaient attendre le réveil de la monstrueuse créature, leur souveraine. C'était d'abord la comtesse Corona, petite fille du colonel Bozzo, qui fut pendant quelques années une des plus brillantes femmes de Paris, et c'était ensuite la comtesse Dubréhu de Clair. Celle-ci, bien qu'elle eût passé déjà les limites de la jeunesse, allait devenir la coqueluche du faubourg Saint-Germain. Toutes deux se trouvaient ici en dehors du drame de leur vie et jouaient, par ordre du père à tous, des rôles de comparses. Auprès de Madame de Clair, un éblouissant jeune homme, noir de cheveux, blanc de peau, tout jais et tout ivoire, parlait bas. On le nommait le vicomte Annibal Gioja, des marquis Palante. Il venait de Naples et savait les métiers d'Italie. Madame de Clair l'avait prêté pour être le chevalier d'honneur de la princesse Gorée. À droite du vicomte, il y avait un prêtre. Venaient ensuite les demoiselles de Paris, lesquels avaient bien l'air qu'il fallait et s'entretenaient avec deux gentilshommes improvisés, les nommés Cocotte et Picpus, honorablement connus au parquet de la capitale. Les demoiselles de Paris, titrées aussi filles d'honneur, appartenaient naturellement à la première noblesse du royaume. On les appelait Clorinde de Biron et Joséphine de Noirboutier, mais leur vrai nom c'était mademoiselle Pruneau, piqueuse de bretelles, et mademoiselle Mèche, ancienne figurante au théâtre Bobineau, actuellement sans profession. Mèche était une drôle de petite bête, chiffonnée, éveillée, effrontée, qui méritait bien les hommages de notre ami Pistolet. Mèche et sa compagne avaient des toilettes de cour et des bijoux, chacune pour plusieurs milliers de louis. On en aurait eu 100 sous au temple. L'affaire était réellement montée sur un certain pied. Pour vous convaincre que l'affaire en valait la peine, il vous eût suffi de passer le seuil et de vous asseoir, à droite de la porte en dehors, sur un banc de bois qui était là boitant. Deux personnes s'y reposaient déjà et feuilletaient un monumental dossier, lequel contenait les extraits des titres de propriété composant la fortune immobilière de Mathurine Gorée, femme Hébrard. Nous l'avons bien nommée la fermière de Carabas, en terre, métairie, forêt, moulin, pré, chènevière, lande, lopin de labour, etc. Elle possédait une demi-province. Les contrats étaient au nombre de plus de 1000 et passés au nom de divers mandataires. Ils portaient au dos la contre-lettre attachée avec une épingle. Monsieur Lecoq tenait le dossier à deux mains, et ce bon petit vieillard, le colonel, toujours souriant et guilleré, le parcourait sans lunettes. Il répétait de temps en temps « Prodigieux, parole d'honneur, deux paysans, une paysanne, des gens illettrés, qui ont passé par les griffes de tant de prête-noms, qui ont employé toute une armée d'hommes d'affaires. Mon fils, notre association n'est jamais arrivée à un pareil résultat. J'ai honte pour les habits noirs. » Lecoq réfléchissait. « Les petits moyens, murmura-t-il, le travail des taupes, et pas d'administration, pas de représentation. » « Explique cela comme tu voudras, mon fils, c'est miraculeux. On est saisi de respect au moment d'écraser une pareille censure. »« Il reste encore les prêts hypothécaires et les valeurs, » dit Lecoq. « Colossal. Oh, je jure bien que ce sera ma dernière affaire. » Lecoq secoua la tête et grommela entre ses dents. « Papa, votre dernière affaire n'est pas encore dans le sac. Le prince est un imbécile, c'est un mauvais choix, je n'ai pas confiance. » Un garçon si rangé, vous êtes un peu contre lui, mes enfants. Moi, je l'aime comme je vous aime tous, fidèlement, mais tu sais, pour le bien commun, je le lâcherai tout de même au besoin. » Lecoq se mit à rire. « Il faudra peut-être faire mieux que le lâcher, papa, dit-il. Nous recoserons de cela. Vous êtes un ange. » Le vieux posa sa main sèche sur le robuste bras de Lecoq. « Il n'y a que toi, l'amitié, dit-il, que je n'abandonnerai jamais. » Lecoq rit plus fort et répondit « Papa, je pleure d'attendrissement chaque fois que je pense à l'affection qui nous lie. « Embrasse-moi, s'écria le colonel, je te nomme mon successeur. » Il reprit en essuyant une larme « Saurais-tu dire combien jusqu'à ce jour on a déjà soutiré de la fermière ?»« De 16 à 1 800 000 francs, répliqua Lecoq en comptant le château neuf. « C'est joli, et combien notre caisse a-t-elle reçu ?» « Rien. La mise en train a coûté cher, et Nicolas tire la couverture. »« Notre administration nous ruine, soupira le vieux. Il n'y a pas de bonne maison qui puisse tenir à ce train-là. Un coulage effrayant. Oh, ça abrège mon existence. »« Bah, fit Lecoq, ce sont des bouts de chandelle. Si la chose réussit, nous encaisserons une somme folle tout d'un coup. » Le vieillard demanda « S'est-on occupé du fils pour le parricide ?» Il prononça ce mot effrayant comme on caresse. « Le fils doit venir ce matin, » répondit Lecoq. « Je m'en suis mêlé, heureusement. »« Qu'est-ce que c'est que ce garçon-là ? » ?»« Une brute. Je connais les paysans. Laissez-moi mener la chose. » La réponse du vieillard fut coupée par un bruit qui s'éleva de l'intérieur de la ferme. « Retirons-nous, » dit vivement Lecoq. « Nous ne sommes pas de ce tableau-là. » Pendant qu'il s'éloignait, montant le sentier qui menait au château neuf, ils purent entendre la voix de Rogom de la fermière disant « Oh, bonjour à tous la compagnie, ça me fait plaisir de vous voir comme ça, à mon réveil. Comment va mon promis, là-haut, ce matin ?»« Le fils de Saint-Louis, » répondit la comtesse de Clare, « envoie ses compliments affectueux à celle qu'il a daigné choisir pour compagne. » « Oh, pas de bon Dieu, » fit la reine, « pour avoir la langue bien pendue, toi, ma comtesse, ça y est tout de même, je te donnerai de l'avancement. L'abbé, un petit bout de pâte nôtre, pas vrai, et puis on va manger la soupe. » Le chapelain, qui était un pauvre diable, donnait en plein dans la conspiration et prenait au sérieux ses momeries au moins autant que Mathurine elle-même. Il s'approcha du lit et s'agenouilla devant le crucifix. Tous les fidèles sujets de Mathurine l'imitèrent. Celle-ci prit son chapelet et ajouta « Faisons vite, enfant, courte et bonne la pâte nôtre. » Aussitôt que la prière fut achevée, Mathurine tendit sa grosse main vers la bouteille d'eau-de-vie qui était dans la ruelle. Le reluisant vicomte Annibal Guillaugeat s'élança pour la prévenir. « Ah, salut, bel homme !» lui dit Mathurine Gorée. « Es-tu assez propre, toi ? Sans baume, tes pattes blanches. À votre santé, les comtesses, les filles d'honneur et le reste. J'ai besoin du poil de la bête le matin pour me remettre en goût. Et je veux boire à ma soif, dis donc. J'ai de quoi payer le marchand pour sûr et pour vrai. » Il y eut un gros sourire. Tout le monde s'inclina respectueusement. Le chapelain, dont le rôle se trouvait d'autant mieux joué que le pauvre homme était dupe des pieds à la tête, saisit ce moment pour porter à ses mains la rude main de la pataude. « J'ai, dit-il, une bonne nouvelle à annoncer à votre Altesse royale.
»« Mon Altesse royale !» se récria la Gorée. « Je ne suis encore que duchesse, Fanfan, pas de bêtises, l'étiquette avant tout. »
« J'ai bien dit, votre Altesse royale, répéta le chapelain, les casuistes ne sont pas d'accord sur la vertu de ces mariages morganatiques. »«
Qu'est-ce qu'il dit ? » s'écria impétueusement Mathurine. « Comment qu'il appelle mon mariage ? Fais attention à toi, Fanfan, il y a de la prison pour ceux qui ne me plaisent pas. Je mettrai le pape au violon, moi, vois-tu ? »
« Je parle, reprit l'abbé avec douceur, de ces unions de la main gauche, dont l'histoire offre malheureusement plus d'un exemple, mais qui ne laisse pas que d'effrayer ma conscience.
« Bel homme !» hurla Mathurine en s'adressant au vicomte Annibal, « je veux que tu aies une épée au côté, ça te tira bien, et un uniforme comme les bedeaux. On paiera ce qu'il faudra, sacre dienne, j'en dépense assez de cet argent, mais mon saint Frusquin ne doit rien à personne. En attendant, mets celui-là à la porte. » Et elle montrait le chapelain de son doigt tremblant. « Il a été malhonnête avec ma majesté. »
Elle s'arrêta au milieu du juron qui ponctuait cette phrase. La colère la suffoquait déjà. Le chapelain dit précipitamment « Votre Altesse royale ne m'a pas compris. En deux mots, j'ai fait partager mes scrupules à monseigneur et il consent à vous épouser selon la loi ordinaire de l'Église. »
Et à la mairie aussi, balbutia la Gorée, émue jusqu'au transport.
Et à la mairie aussi, répéta le chapelain. Ceci était une modification au premier plan des habits noirs, qui s'était aperçu bien vite des difficultés présentées par la vente simultanée d'une si grande masse de propriétés. Renonçant à l'idée impossible de se faire livrer de la main à la main les biens de la Gorée, ils avaient résolu d'obtenir le même résultat à l'aide d'un contrat de mariage contenant donation mutuelle et entière au dernier vivant des deux époux. Pour cela, il fallait un mariage civil et, en définitive, l'héritier de tant de rois, s'appelant de son vrai nom Louis-Joseph-Nicolas, rien n'empêchait de faire de la Gorée une madame Nicolas devant la municipalité. Elle était, Dieu merci, toute portée à regarder ce nom comme un leurre jeté à la police de son compétiteur, Louis-Philippe, soi-disant roi des Français. On ne pouvait pas, évidemment, sans risquer l'exil et peut-être la mort, inscrire sur un registre de mairie cette redoutable mention « Louis-Joseph de Bourbon, fils du dauphin de France ». Il y a des choses qui sautent aux yeux. Quant à la formule de donation au dernier vivant des deux époux, nous allons voir tout à l'heure comment les habits noirs l'entendaient. C'était le côté fort de la combinaison. Comme ces admirables mécaniques, qui non seulement marchent toutes seules, mais encore se règlent, se chauffent, se dirigent et se corrigent elles-mêmes, la combinaison inventée par le colonel, c'était sa dernière affaire, tuait la Gorée, ouvrait sa succession et payait la loi du même temps. Les Américains n'ont rien fait mieux depuis lors. Pour le coup, Mathurine fut contente. « Fanfan, dit-elle à l'abbé, je te permets de baiser ma main d'altesse royale. Les deux mains si tu veux. Tu es une bonne bête, sais-tu. Mais pas de bon Dieu. Je ne disais rien pour ne pas vexer monseigneur, qui a déjà assez de cailloux dans ses chaussettes, mais ça me chiffonnait, ce mariage morga quoi, Fanfan ? Enfin, qu'importe. J'aime mieux être princesse que duchesse, pas vrai ? Le grade est plus calé. Verse un peu à boire, bel homme. Ah, je suis bien aise sacredienne, hein, la santé, la compagnie. »
Elle siffla son verre et sauta hors du lit sans crier gare. Les reines peuvent se montrer comme des corsins, et pendant que les demoiselles de Paris lui mettaient ses gros bas de laine, elle l'écorcha à un couplet gaillard à faire dresser les cheveux. « Appelez-moi tous ensemble, mon Altesse royale !» s'écria-t-elle en lançant son bonnet de coton au plafond. Hein, « Les comtesses, ça vous met bien bas. Bel homme, viens ça, et réponds droit. Y a des manigances, je sais ça. Est-ce qu'un roi qui a monté sur un trône pourrait renvoyer sa reine, mariée devant le maire, et qu'aurait avec ça un bon contrat de mariage en règle ?»« Non, certes, » répondit le vicomte Annibal. « Je veux 2 notaires, 4 notaires, 12 notaires à mon contrat, pour que ça tienne plus dur. On paiera ce qu'il faut. » Ici, elle repoussa avec énergie le bassin à laver que la comtesse Corona lui présentait. « Toi, Gimblette, lui dit-elle fièrement, tu sauras que les reines, c'est jamais mal propre. Lave-toi si tu veux, ma fille, tu n'es qu'une simple noble. » Elle rayonnait d'allégresse et d'orgueil. Sa laideur était une auréole. Elle atteignait à un excès de comique qui faisait peur. « Allons, allons !» s'écria-t-elle tout à coup. « Je vais mettre une jupe neuve et ma camisole du dimanche. Tout à cuire et à bouillir, quoi. Si monseigneur est pressé, j'irai avec lui au château, avant l'église et avant la mairie. Coupe ta langue, fanfan, et ne dis pas que c'est péché. Tu n'entends goutte aux affaires. Les princesses, ça n'a pas de loi, quoiqu'elles ne peuvent pas boire une bouteille de plus que leur soif. Et c'est bête. » Et en avant ceux qui ont des sous à demander. J'en ai vendu déjà des lopins de bonne terre, mais quand il y en a plus, il y en a encore. Et jarnis godichons, nom d'une pipe à la broche, mais domestiques que vous êtes, j'ai assez quétaillé par les routes avant d'être la chacune du monarque. Je ne veux plus rien devoir à personne. Arrivez, à qui le tour ? La comtesse de Clare, Annibal et Picpus s'approchèrent d'elle à la fois. Chacun d'eux avait un papier à la main. Mathurine prit ses papiers l'un après l'autre et y chercha 2 choses, la somme totale et le cachet de son royal fiancé. Bien qu'elle ne sût point lire l'écriture, elle ne se trompait jamais aux chiffres. La note de la comtesse était pour la conspiration, celle du cavalier Guillaugea pour les affaires personnelles du fils de Saint-Louis, celle de Picpus pour le château et les dépenses des gens de Paris. « C'est cher, » dit la Gorée gaiement, « nous allons bien. » Mais après moi, la fin du monde, nous n'avons que nous à penser. » Elle prit sous son traversin une grosse clé rouillée et ouvrit la huche qui servait de montoir à son lit. C'était un coffre épais et doublé de fer à l'intérieur. Il contenait de hautes piles de pièces de 5 francs en argent et même des écus de 6 livres. L'or était dans un coin. Il y avait aussi plusieurs fortes liasses de billets de banque. Ce fut au billet de banque que la Gorée s'adressa, après avoir caressé du regard les piles de pièces de 100 sous. « Voilà 8 jours, dit-elle, tout cela était dans de la bonne terre, avec du bon bois dessus, oui, » elle soupira. Mais elle donna un grand coup de poing dans les pièces d'or et se prit à remuer le tout à larges poignées, comme on brasse la pâte pour faire le pain. « à la boulange !» fit-elle, le sang au front et l'ivresse partout le corps. « Ah, c'est doux aux mains, ça chante. Ah, si je voulais, je remplirais de pièces blanches et jeunes un coffre plus haut que la maison. Eh, nom de nom de nom, je le ferai quand je serai reine, ou pas de bon Dieu. » La comtesse Corona lui toucha le bras. « Voici un jeune homme, dit-elle, qui demande à parler à son Altesse royale. » La Gorée se retourna. Sur le seuil, il y avait un misérable garçon vêtu de haillons qui regardait le coffre d'un air stupide. D'écarlate qu'elle l'était, la Gorée devint toute blême. « Que viens-tu faire ici, gredin ? » demanda-t-elle en un cri qui s'étrangla dans son gosier apoplectique. « Maman, répondit le pauvre diable en baissant ses yeux mouillés, j'ai grand faim et j'ai grand soif. Ils m'ont mis dehors chez les Mathieu pour 35 sous que je leur dois de vaisselle cassée. » « Mes domestiques !» cria Mathurine, secouée de la tête aux pieds par sa colère folle. « Battez-le, chassez-le, c'est un coquin qui me ruine. Ah, vilain, ah, vagabond, 35 sous, va-t'en, je te maudis, je te renie, je te condamne à mort !» Le jeune messieur de Cocotte et 2 Picpus, serviteurs zélés, s'empressaient déjà à exécuter l'ordre de leur souveraine et prenaient le fils unique de la Gorée par les épaules pour le jeter dehors. Le vicomte Annibal les arrêta du geste et dit tout bas à Madame de Clare, dont le regard l'interrogeait, « Il fait jour. » Ces 3 mots valaient toute une longue explication.
Il signifiait que le malheureux garçon, debout sur le seuil de la porte, soit qu'il agît de plein gré, soit qu'il fût poussé à son insu, avait un rôle dans la comédie des habits noirs. Mathurine écumait. Les 35 sous étaient bien pour quelque chose dans son extravagante indignation, car nulle créature humaine ne dépouille entièrement son instinct, et Harpagon reste rogneur de liards quand même il est prodigue de monceaux d'or. Mais la rage de Mathurine avait un motif autre et plus puissant. On peut se faire une idée de l'importance qu'elle attachait à sa dignité princière par le prix qu'elle y mettait, elle, l'avare émérite et acharnée. On peut deviner à quel point elle tenait à sa gloire si chèrement acquise, c'était la démence d'un orgueil paysan. Or, au plus haut fait de cette gloire, elle se heurtait contre une humiliation inattendue. Ce pataud en guenilles l'avait appelée « maman ». Devant tous ses domestiques, les comtesses, le vicomte, les dames de Paris, etc., nous sommes dans la folie jusqu'au cou, ne l'oublions pas, folie grotesque et triste à la fois, et surtout folie vraie, d'une vérité absolue, folie de femme, forte à sa manière, qui avait dépensé les pieds dans la fange à grossir sa montagne d'or des prodiges d'astucieuse diplomatie. Elle n'avait pas honte d'elle-même, soit qu'elle ignorât sa repoussante laideur, ses ridicules odieux, tout ce qui la faisait haïssablement burlesque, soit qu'elle se sentît de force à imposer tout cela. Elle allait droit son chemin, en tête haute. Elle ne riait pas. Elle n'eût pas fait crédit à ces belles dames et à ces nobles valets d'un seul hommage payé comptant. Elle appuyait de parti pris son lourd sabot sur toute cette tête qui était pour elle le nec plus ultra de l'élégance et de la distinction. Elle avait assez d'esprit, la monstrueuse vieille, pour jouir du contraste. Ses mains sordides reluisaient d'or, elle savait bien cela, et se laissait effrontément adorer dans sa crasse, comme ces dégradantes idoles qui font peur aux Chinois agenouillés. Mais elle avait honte de son fils, ce pauvre malheureux innocent, battu depuis l'enfance, mal bâti, maigre, boiteux, déguenillé, affamé. Elle l'avait horriblement honte. Il n'était de rien à tout cet or. Son aspect faisait dégoût et pitié. On ne l'avait pas initié, il se croyait pauvre. Sa présence seule maculait le triomphe de Mathurine comme une insulte et un opprobre. Elle laissa retomber le couvercle de son bahut brusquement. Elle se redressa de toute sa hauteur. Ses cheveux gris frémissants se hérissaient sur son crâne. « Oh !» dit-elle d'une voix qui sortait rauque par l'effort qu'elle faisait pour la contenir. « Vous ne voulez pas chasser mon fieu, vous autres ? Vous avez raison, il serait votre maître si c'était mon idée. Alors sortez vous-même, et plus vite que cela. On n'a plus besoin de vous, on sait faire ses affaires toute seule. Toi, éclopé, ôte tes sabots et entre. Pas de bon Dieu, on va voir. » Le jeune gars d'un côté, les Parisiens de l'autre, obéirent en silence. Le malheureux enfant fit quelques pas à l'intérieur en boitant. Il avait la tête nue et tenait ses sabots dans sa main mutilée. « Ferme la porte, Vincent Goret !» lui ordonna Mathurine, dès que les autres furent sortis. Il poussa le lourd battant en tremblant de tous ses membres. Au dehors, derrière ce battant, les physionomies avaient subitement changé. La comtesse de Clare souriait au vicomte Annibal, qui lui dit « Bien-aimé, cet empereur Vespasien était enrhumé du cerveau le jour où il fit son célèbre mot « L'argent n'a pas d'odeur ». Qu'avons-nous ce matin ?»« Nous faisons les fonds pour payer la loi », répliqua l'ancienne Marguerite de Bourgogne avec indifférence. Annibal respira un flacon de femme qu'il avait à la main. « Bien, bien, » murmura-t-il, sans perdre son éblouissant sourire. « Un parricide, je crois. Nous n'y allons pas par quatre chemins, mon cœur. » Marguerite appela du doigt Cocotte et Picpus qui marivaudaient avec des demoiselles d'honneur. « Il nous faudra 3 ou 4 paysans, » dit-elle, « des témoins. » « Bien, bien, » répéta Annibal, « je comprends. Mes amis, mettez la demi-douzaine et revenez vite, car on commence à se disputer là-dedans. On va bientôt se battre. »« Moi, dit Cocotte, j'ai déjà été ce matin jusqu'à Mortefontaine montrer la Thérèse Soulas à Troubadour. Il en a de l'ouvrage en train. » Picpus et lui prirent la campagne. La comtesse Corona n'était nullement mêlée à tout cela. Elle s'éloignait, triste et courbée, sous une profonde fatigue, sans même avoir échangé un salut avec sa collègue, Madame de Clare.
Hein, celle-là, dit Marguerite, qui la montra du bout de son éventail, aurait fait une assez jolie sainte sans le péché originel. Hannibal lui baisa la main en radotant une fadeur d'Italie, et ce fut tout. Le pauvre diable de prêtre s'en allait d'un autre côté, continuant son bréviaire. Dans la salle basse, la mère et le fils étaient en présence. Tout le monde sait comment sont éclairées les fermes normandes. C'est la porte ouverte qui donne la plus grande somme de lumière. La porte fermée y fait le crépuscule. La Gorée s'appuyait toujours au couvercle de son coffre. Le malheureux Vincent poussait de gros soupirs en tourmentant la bride de ses sabots. C'était, dans toute la force du terme, une misérable créature. D'un coup de son gros poing velu, Mathurine l'eut écrasé. « Comme ça, dit-elle, tu as fait 35 sous de casse, fio !»«
Oui, ma maman, par le malheur que j'ai eu. »«
Et tu viens me les demander, et fio, les 35 sous ?»«
Oui, maman, avec un peu à manger et à boire. »
La Gorée allongea le bras par-dessus le lit et prit sa bouteille.
« C'est des remèdes, » grommela-t-elle en forme d'apologie. « Ça te ferait du mal, innocent, à moi pas. »
Et elle but une bonne lampée, amen. Sa colère était un peu tombée. Elle n'avait pas été trop méchante envers son gars quand il était petit. On ne le battait que les jours où il volait du pain noir, et, sauf les doigts coupés pour un bon motif, on ne lui avait jamais rien cassé qu'une jambe. Mais n'exagérons pas, Mathurine avait du bon. Si elle avait rencontré l'éclopé dans un chemin creux, tout uniment, elle l'aurait embrassé, c'est certain. Peut-être même lui aurait-elle donné un mauvais sou refusé au débit de tabac. Mais venir montrer ses guenilles aux gens qui disaient à Mathurine « Voltatresse royale », enfin, qu'importe, la tempête se calmait. Mathurine en était à se demander comment elle ferait pour lui donner à boire, à manger et ses 35 sous sans passer pour être trop riche. « Fio, dit-elle, d'un ton notablement raccourci, je réfléchis dur et fond, sans que ça paraisse. Je cherche où je pourrais prendre tout à coup tant d'argent. Nous savons déjà que l'éclopé n'était pas là de lui-même, on l'avait endoctriné. Qui ? Ce n'était pas à lui qu'il aurait fallu le demander. Il haussa les épaules pour son malheur et répondit « Oh là là, maman, ce n'est point beaucoup d'argent pour vous, 35 sous, qu'on dit que vous avez des 1000 et des 100 de rente à vous, tout partout appartenant. » La main de la Gorée se crispa de nouveau.
« Qui dit cela ? » interrogea-t-elle, avec toute sa colère déjà revenue.
« Le monde, donc ?»«
Le monde, fio, » fit-elle, avec une feinte douceur. « Va, mon poulet, raconte comme le monde cause. »
Sans compter, poursuivit le gars que j'ai vu là-dedans de votre bahut, ah là là, il y en a assez là-dedans, maman, des sous, des francs, des écus.
Hein, gronda Mathurine, tu as vu le dedans de mon bahut, c'est du bien qui appartient aux beaux messieurs et aux belles dames de tantôt, mon petit fio.
Brin, brin, notre maman, répliqua le gamin en souriant d'un air finaud, vous les appelez comme ça vos domestiques, ceux-là. C'était bien vrai, mais il ne faut pas avoir raison contre les rois. La Gorée n'avait jamais été patiente, sinon vis-à-vis de plus fort qu'elle. Depuis son avènement au trône, elle ne savait plus supporter l'ombre d'une contradiction. Elle se jeta sur son fils, qui en était encore à rire niaisement de l'à-propos de sa riposte, et lui arrachant des mains ses sabots, elle se mit à cogner de tout son cœur, à tour de bras. L'éclopé n'opposa d'abord aucune résistance. Les coups de sabot pleuvaient comme grêle sur son dos, sur sa tête et même sur sa figure. Il essayait de parer avec ses mains maladroites et disait « Maman, vous tapez trop dur, maman, vous me faites du mal, maman, est-ce que vous auriez le cœur de me périr assassiné, moi qui ai votre enfant, de vos propres mains ?» Mathurine n'entendait plus et tapait toujours aveuglément, follement. Et en frappant, elle grondait « Il n'y a rien à moi ici, on me pilerait dans l'auge qu'on n'aurait pas de moins 35 sous, à manger, coquin, à boire, voleur, n'as-tu pas l'âge de gagner ta vie? N'est-ce pas toi qui devrais donner le boire et le manger à ta vieille mère faible et infirme ?» Les coups sonnaient, le sang coulait, le gars Vincent commençait à crier misère, mais rien ne bougeait au dehors. En voyant le sang, la Gorée devint furieuse. C'était une femelle de taureau. Elle eut la fièvre rouge. À la volée, elle jeta ses sabots qui brisèrent une vitre et saisit un grand pieu à planter les choux qui se trouvaient à portée de sa main.
En même temps, selon l'instinct étrange de toutes les femmes qui appellent au secours, même quand elles assomment l'autre sexe, elle se mit à hurler « À la garde! À la force! Au voleur! À l'assassin! On m'égorge !» Et elle lança un coup de boue à l'éclopée qui para en tombant à plat ventre. Le pauvre diable aux abois, cherchant machinalement une arme pour se défendre, plongea sa main dans sa poche et en retira son couteau. Si vous saviez quel misérable couteau! Un Eustache de 6 liards qui se retournait sens devant derrière et branlait entre les deux lattes de son manche de bois blanc. Un couteau qui n'aurait pas saigné un poulet. Un couteau qui n'aurait pas même pelé une pomme. Cependant, c'était un couteau. Le nom fait la chose. Au bruit du carreau qui éclatait, on avait entendu une rumeur au dehors. La porte s'ouvrit avec violence, juste au moment où l'agoré déchargeait à deux mains un terrible coup de pieu sur le crâne du malheureux gars, qui lâcha son couteau et s'affaissa inanimé. La porte ouverte donna passage à un petit groupe de paysans des deux sexes. Au-devant d'eux marchait un personnage remarquable, évidemment étranger à la contrée, mine effrontée, cheveux d'un jaune poussiéreux, chapeau jeune France, costume élégant du prix de 45 francs, complet à la belle jardinière. En dessous, Clampin dit pistolet, c'était lui dans l'exercice de ses fonctions, traversa la chambre et tomba sur le petit couteau qu'il éleva triomphalement entre l'index et le pouce. « Voilà la preuve du délit, » prononça-t-il avec emphase. « Villageois, vous êtes témoin. Ce n'est pas moi qui ai inventé cette arme meurtrière. La respectable mère de famille qui est devant vos yeux a failli devenir victime d'un parricide. » Les paysans regardaient tour à tour d'un air incertain l'enfant écrasé qui gisait à terre et l'agoré qui venait de s'asseoir sur la table, écarlate et prête à crever d'un coup de sang. « C'est pourtant vrai, » dit un gars de charrue, « que le gars avait son couteau. »« Ah, sûr, » ajouta un patour, « et que la gorée a de l'argent à voler prince à paillasse. »« Tu mens, toi !» s'écria Mathurine, maniant avec peine sa langue épaisse. « Et dans ses ormoires aussi, » reprit le valet, « et dans sa cave. »« Et dans tout !» fit le cœur des assistants. « Elle a de l'or, gros comme la paroisse. » « Vous mentez, » répéta Mathurine, « mon fio a voulu faire la fin de moi pour 35 sous de casse qu'il a eu chez ses maîtres, les Mathieu. Décampé, racaille, je n'aime point voir les gens chez moi. » Personne ne bougea, personne non plus n'eut l'idée de secourir les clopés. 5 ou 6 gars et 2 filles restaient là, chômés, comme ils parlent, c'est-à-dire les jambes écartées, la tête pendante et les bras ballants. Évidemment, nul d'entre eux n'était jamais entré dans le logis de Mathurine, car il regardait avec un sournois étonnement le luxe disparate des fauteuils, des tapis et des rideaux. Il y avait là de quoi causer pour longtemps au champ et à la veillée. Aucun des gens de Paris ne se montrait en ce moment. Pistolet était ici, chez lui, comme partout. Il prit une écuelle, puisa de l'eau à la cruche et vint offrir ce simple breuvage à l'agoré, qui le repoussa énergiquement. Pistolet porta l'écuelle de l'éclopée qui reprenait ses sens et qui but avec avidité. « Monstre !» lui dit le gamin, du haut de son indignation, « tu n'as même pas la conscience de ton crime !» Les paysans s'étaient groupés et chuchotaient. « Il y a bien des vilainies dans cette maison-là, » disait l'un. « Et des cache-cache, » répondait l'autre. « Et quand la justice y descendra, on en verra des péchés !» Mathurine se remit sur ses pieds et prit son plantoir. Les paysans reculèrent. « Villageois !» dit Pistolet, qui en étonna au moins 2 par la force qu'il mit à les saisir sous les épaules, « vous êtes priés d'aller chacun chez vous. Soyez discrets. La divulgation de pareils attentats ne peut qu'être nuisible aux mœurs. Mais si ce malheureux usait une seconde fois de violence, vous avez vu, vous sauriez éclairer la justice en qualité de témoins véridiques et sincères. » « Ah ça, quoi que vous êtes-vous ? » demanda le valet de charrue en essayant de résister. Pistolet le jeta dehors avec son camarade en répondant « Je suis un bourgeois de Paris, la grande ville, et je voudrais avoir votre vigoureuse santé, simples habitants des campagnes. » Il en lança 2 autres à la porte, embrassa les 2 filles et reprit « Bonsoir, villageois, portez-vous bien, mes amis. » Dès que la salle fut vide, la porte opposée, donnant dans l'étable et de là dans la cour, s'ouvrit brusquement. Le vicomte Annibal, Cocotte et Picpus parurent sur le seuil. Tous 3 étaient armés. Pistolet croisa ses bras sur sa poitrine dans une attitude dramatique. « Pas de bêtises, dit-il, vous pouvez me regarder dans les yeux. Il fait jour. » « Tu as trop bien joué, l'ami, répliqua le vicomte. Qui t'a mis au fait ?»«
Celui-ci, riposta le gamin en montrant du doigt à Picpus. « Je n'ai prononcé qu'un mot, prononça ce dernier. Il a tout compris. »
« Qui es-tu ? » demanda Hannibal avec menace. « D'où viens-tu ? » Pistolet mit un doigt sur sa bouche et glissa un regard vers l'agorée qui fourrait le goulot de la bouteille au remède entre ses dents. « Si vous m'aviez demandé que fais-tu, prononça-t-il tout bas, j'aurais répondu « je joue la poule ».«
Je te conseille de ne pas plaisanter. »
« Compagnon, cherchez plus sérieux que moi. Si vous m'aviez demandé où ça que je joue la poule, je vous aurais ajouté à l'estabinet de l'épicier. »
Hannibal à ce nom hésita. Il tendit la main à Pistolet et dit tout bas « faites le signe ».
Mais le gamin poussa un grand cri de joie et s'élança vers la porte du fond où se montrait le minois curieux de mademoiselle Joséphine de Noirmoutier. « Mèche, clampin !» Ce fut une reconnaissance en règle. Ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre et Pistolet triomphant s'écria « Demandez à madame depuis combien de temps qu'on en consomme du crime ?»«
C'est vrai qu'il en mangeait avant moi, » répondit Mèche, « ayant toujours de quoi payer les douceurs, sans profession avouée. C'est pour le retrouver que je me suis engagé dans la chose. »
« Un service de monsieur Trois-Pattes du plat d'étain, » dit Pistolet avec dignité en se retournant vers Hannibal. « S'il faut passer un examen, allons-y, maître. » Il lâcha la main de la fille d'honneur qui venait de lui figurer le signe et répéta le même attouchement sous les doigts d'Hannibal. Celui-ci, parlant à la cantonade, dit aussitôt « Entrez, madame la comtesse, cet homme n'est pas de trop. » La comtesse de Clare passa le seuil. « Altesse, dit-elle à la gorée, monseigneur, informé de l'horrible attentat, envoie chercher de vos nouvelles. »
« Chut !» fit Hannibal en montrant Vincent, l'éclopé, qui ouvrait de grands yeux.
« Je me charge de lui, dit Pistolet, il en sait trop long, ce brave-là. »
À ce mot « Altesse », Pistolet avait légèrement tressailli, et ses dernières paroles étaient principalement destinées à cacher sa propre surprise. La gorée ôta sa bouteille de sa bouche.
« Pas de bon Dieu, gronda-t-elle, c'est gênant d'être princesse. En voilà des histoires. Je n'ai donc plus le droit de taper sur mon fieu sans qu'on l'accuse de ci, de ça. Il n'a pas voulu me périr, et son couteau ne tuerait pas un lapin. Allons, allons, innocent, viens baiser maman. Ces messieurs et ces dames vont me prêter 40 sous pour ta casse et ton déjeuner. Ne dis pas ce que t'as vu ou on t'assomme, cette fois pour de bon. File !»«
Mais, voulut objecter Hannibal, « Tais ton bec, bel homme, et donne les 40 sous, pas de réplique !»
Hannibal obéit parce que Pistolet lui dit à l'oreille « Il est pour payer la loi, c'est sacré, on va vous l'empailler proprement. » Pendant que l'éclopé sortait par la porte principale, Pistolet se glissa dans l'étable et de là dans la cour qui avait une issue au dehors. En passant, il avait lancé un coup d'œil à Mèche, qui le suivit.